couper, non, ça va pas du tout, couper.
Arrête ton cinéma.
Héros de la guerre froide cinéma, symbole de l'homme qui a toujours un temps d'avance et grand promoteur des gadgets high-tech, James Bond se devait de croiser les technologies spatiales dans sa carrière. Et c'est arrivé à au moins trois reprises notables. La première fois, en 1971, quand Sean Connery inactive un satellite armé d'un puissant laser assemblé à partir de diamants qui sont éternels. Diamonds are forever. En 1995, Pierce Brosnan peut cette fois-ci compter sur les satellites espions de dernière génération pour désarmer un vieux satellite russe tombé aux mains d'un vrai méchant complètement démoniaque. Et ce satellite s'appelle GoldenEye, you'll do what I please. GoldenEye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. Mais les aventures spatiales de James Bond prennent surtout de l'ampleur en 1979. L'agent secret est alors interprété par un Roger Moore, franchement grivois, qui se paye le luxe d'une bataille finale en orbite, à la recherche cette fois d'une navette spatiale volée.
Qu'est-ce que vous savez de Moonraker ?
Ce que j'ai pu en lire dans la presse, monsieur.
Moonraker est sûrement l'un des épisodes de James Bond les plus français. Il y a déjà quelques belles figurantes hexagonales, le méchant est interprété par Michael Lansdal, et puis de nombreuses scènes ont été tournées en France. On y voit le château de Vaux-le-Vicomte pour l'aspect historique, et le centre Beaubourg est utilisé comme laboratoire de pointe. Et même la station spatiale a été entièrement recréée dans des studios en banlieue parisienne. Alors avec tout ça, on aurait pu espérer que notre fusée Ariane, qui justement cette année-là réalisait son vol inaugural, aurait pu figurer au casting. Eh bien non, la vedette lui est volée par la navette américaine.
Le voici, le Moonraker, susceptible d'être lancé dans l'espace par une fusée en
orbite autour de la Terre, de revenir dans l'atmosphère et d'atterrir comme un avion de type conventionnel.
Moonraker est clairement une représentation de la navette américaine, qui a donc les honneurs du cinéma hollywoodien, alors même qu'elle n'a pas encore réussi à atteindre l'espace. En effet, le premier vol en orbite pour la navette Columbia aura lieu 2 ans après la sortie du film. On peut donc souligner là un très joli placement de produit par le service marketing de la NASA. Il faut dire que l'agence spatiale américaine a toujours su entretenir de belles relations avec le cinéma. D'ailleurs, avant la navette Columbia, il y avait eu une première navette d'essai baptisée en l'honneur d'une autre grande saga de cinéma, l'Enterprise.
Où avez-vous appris à vous battre comme ça à la NASA ?
Chez les bonnes sœurs.
Pour ceux qui se demandent encore, pourquoi, mais pourquoi un jour quelqu'un a décidé d'envoyer dans l'espace cet agent secret plutôt vieille Angleterre ? Eh bien la réponse est certainement à rechercher du côté du box-office. La fin des années 70 est marquée par le très grand succès du premier épisode de La Guerre des Étoiles et quelques autres films spatiaux. Moonraker est donc la tentative de rattraper cette mode de la science-fiction au sein même de la saga James Bond. D'ailleurs, le film multiplie les clins d'œil et utilise de nombreux codes du genre de la science-fiction. On y entend la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace, ou ses notes tellement mémorables de rencontres du troisième type. Il y a également tous les décors, tous les costumes classiques de la science-fiction spatiale. Et puis il y a ce bruit tellement démodé aujourd'hui, mais tellement savoureux dans nos souvenirs de cinéphiles, le fameux bruit des pistolets laser.
Emmenez-moi encore au 7e ciel, Jay.
Pourquoi pas ?